Bonjour. Donc, après tout ce qu'on vient d'entendre, comment parler d'un atelier danse et pourquoi danser? Ben, peut-être justement. Donc, l'atelier danse existe au Comet depuis 2014. C'est un atelier qui est conçu que pour des femmes qui sont accompagnées par le Comet, qui ont vécu, comme vous avez pu entendre, des violences à multiples reprises sur dans le pays d'origine, sur le chemin d'exil et très souvent en arrivant en France. Ces femmes-là sont dans une extrême précarité administrative, notamment une précarité sociale, et sont accompagnées pour leur logement par le dispositif 215. Elles sont demandeuses d'asile, déboutées de droit d'asile ou certaines réfugiées, parfois. Donc cet atelier existe depuis 2014 et il ne se passe pas dans le centre de santé. Donc c'est un atelier qui a lieu hors les murs du centre de santé de Comet et qui est au 104, qui est un établissement artistique et culturel à Paris, où on a une petite salle dédiée pour cet atelier qui se déroule dorénavant une fois par semaine, chaque mercredi, de 10h à midi. Le dispositif pour cet atelier m'habite depuis plusieurs années et il démarre d'une rencontre qui me paraît importante à vous partager aujourd'hui. Cette rencontre a eu lieu lors d'un de mes stages, quand j'étais stagiaire psychologue, et c'était avec une personne qui m'a été présentée comme psychotique. Je pense que durant cette année de stage, c'est son étrangeté vers le monde dans lequel moi j'étais qui a fait écho à l'étrangère que je suis. Et du coup, dans cette rencontre, il y a quelque chose autour du mouvement qu'on a pu inventer, créer ensemble. Et depuis cette rencontre, j'accompagne ce dispositif de création à but thérapeutique pour les femmes. Quand on parle de psychotrauma en tant que clinicienne, on va être plutôt dans un registre extrêmement traumatique et effectivement, on va parler de reviviscence, de troubles de sommeil, de cauchemars, de flashbacks, d'un sentiment dépressif extrêmement aigu parfois, d'une difficulté. Donc d'une difficulté d'être un lien.
C'est mieux comme ça, désolée.
Donc d'une difficulté d'être en lien avec les autres et d'une difficulté de ne pas s'isoler, de ne pas rester enfermé dans toutes ces images qu'on voit constamment qui sont en lien avec les traumas vécus. De mon expérience avec cette personne que j'ai pu rencontrer lors de mon stage, qui m'a été présentée comme psychotique, j'ai pu apprendre que, justement, en tant que psychologue, je dois être amenée à écouter ce qu'on apprend des personnes qu'on accompagne. C'est une position éthique que je garde depuis, une position politique et également écologique. J'ose dire écologique parce que je cite Corinne Pelluchon, qui vient de publier en fin d'année dernière un ouvrage qui s'appelle « L'éthique de la considération », qui m'a beaucoup inspirée également pour continuer à maintenir le dispositif que je porte en tant que clinicienne. Elle parle de cette éthique de la considération et elle dit qu'elle est liée à la philosophie de sujet qui ne se réfère pas à une essence de l'homme. Son point de départ est le sujet pensé dans sa corporéité qui est toujours dans une relation à l'autre. Nous sommes toujours en rapport avec les autres êtres, humains et non humains, présents, passés et futurs. Donc, le sujet est donc inscrit dans une éthique générale qui met en évidence le lien existant entre le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport à la nature. Il me semble très important cette petite citation que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui, car avec tout ce qu'on vient d'entendre, on est nous-mêmes entourés par un climat de violence, par un discours médiatique qui nous amène à penser le sujet en tant que flux migratoire et donc qui nous amène forcément pour pouvoir nous protéger d'être dans des mécanismes de clivage qui sont très proches des violences que les patientes qui viennent à l'atelier de danse ont vécues. ces mêmes mécanismes de clivage qui permettent aux patientes de justement ne plus ressentir des choses qui sont en lien avec leur corps, ne plus ressentir les sensations, et du coup qui les amènent à être dans un état d'isolement. J'aimerais juste évoquer ce questionnement entre qu'est-ce que ça nous fait à nous qui n'ont pas... On n'est pas censé avoir vécu des traumatismes aussi importants que les patientes qu'on accompagne au centre de santé. Qu'est-ce que, rien que ce discours qu'on entend peut faire dans notre état d'esprit et de quelle manière on peut aussi continuer à maintenir cette sensibilité dans une approche plutôt systémique et cette sensibilité d'être toujours un sujet dans une relation à l'autre, à soi et à l'environnement qui nous entoure. Ce positionnement éthique m'a amené aussi à élaborer une méthode de travail que j'appellerai aujourd'hui horizontale. Ça veut dire que quand on est dans l'atelier danse et quand on pense ce dispositif, on n'est jamais dans une position hiérarchique, pyramidale. Donc, on est toujours dans une position de co-construction. Ça veut dire qu'entre nous, toutes les intervenants, on est dans une co-construction et dans une interdépendance, aussi bien au niveau des participants de l'atelier, comme l'animatrice que je suis de l'atelier, comme ma collègue bénévole qui est aujourd'hui parmi nous, comme Madame Laure Volmar, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est mon point d'appui à l'extérieur de l'atelier danse au niveau institutionnel. Donc tout cet atelier existe et continue à être habité par tous ces points de contact et ces points d'appui qu'on peut trouver entre nous et toute cette créativité qu'on mobilise à l'œuvre pour que chaque atelier ait lieu. Au niveau du cadre institutionnel, j'aimerais bien vous citer aujourd'hui Laure Volmar, qui a pu écrire des choses intéressantes en appelant ce cadre institutionnel un cadre circulant, dans un article qui se nomme « La danse comme foyer d'asile, circulation, corps et institution », qui est apparu dans la nouvelle revue de psychosociologie numéro 25. Le cadre circulant concerne donc les participantes, donc les patientes, l'animatrice de l'atelier, les stagiaires, les bénévoles et les salariés du Comed. Ils utilisent souvent toutes ces personnes-là, le prénom « nous », pour dire leur action commune, l'atelier. De cette manière, elles mettent en acte une forme de levée des ségrégations entre étrangères et membres de la société d'accueil. La proposition « danser ensemble » est une proposition de soins non seulement pour les participantes de centres de santé, mais aussi pour les membres de Comed et pour l'institution Comed. Jean Houry proposait dans la clinique de psychose des grèves de verre avant d'éviter le glissement naturel vers la plus banale et la plus grave maladie des collectivités, des établissements et des groupes, la fermeture sur soi, l'uniformisation. Le trauma, la précarité, l'exclusion sociopolitique qui constitue donc l'arrière-plan de la clinique des exilés produisent de l'immobilité psychique et de la sidération. À l'atelier danse, en permettant une circulation entre tous ces espaces et entre les positions de soignants et soignés, dans une pratique en mouvement qui tient compte de la nécessité de modifier constamment la structure pour qu'il y ait de l'ouvert. C'est bien pour ça que l'atelier danse a aussi cette fonction et porte en soi cette circulation constante entre les différentes institutions, aussi bien que le centre de santé à Kremlin-Bicêtre, comme le 104, qui est un établissement artistique et culturel, et aussi bien tous les mouvements qui circulent à l'intérieur de l'atelier. Les fondements de l'atelier danse s'inscrivent dans un dialogue entre l'espace dedans et l'espace de dehors, entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, entre l'espace intime et l'espace collectif. Dans ce cas-là, on peut dire que l'exil est abordé et est appréhendé en citant Nathalie comme le nom d'une expérience et la base d'un processus. Le cadre qui va suivre de l'atelier danse, que je vais continuer à vous présenter, donc vient effectivement de toutes ces inspirations et de toute cette circulation d'idées qui sont mises en mouvement. On commence l'atelier danse en arrivant déjà dans la salle. Quand on arrive dans la salle, il faut quand même l'accueillir parce qu'à chaque fois, on découvre un peu des objets qui ont resté des précédents ateliers. On peut trouver des fois une grande table qui a servi pour faire de la peinture, des chaises ou des objets qui ont resté comme ça de l'atelier qui a précédé l'atelier danse. La première chose qu'on fait, c'est de se mettre vraiment en mouvement et de pouvoir accueillir cette salle-là et l'habiter. Je ne sais pas si les patientes qui viennent à l'atelier danse ont un autre endroit où elles peuvent intervenir dans l'espace qui les entoure. Et dans cet espace, dans cette salle-là, elles peuvent le faire. Elles prennent tout de suite une position très active en aménageant l'espace autour d'elles. Une fois que l'espace est prêt, elles-mêmes, elles construisent un salon de repos. Le salon de repos a une fonction très importante parce que c'est grâce à ce salon de repos qu'elles peuvent dire non à une proposition dansée qui est verbalisée durant l'atelier. Elles peuvent très bien dire non, ça je ne souhaite pas faire parce que mon corps aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, ne souhaite pas éprouver la proposition que vous proposez. Ça leur permet effectivement de garder toujours une position subjective et ça leur permet également de toujours rester concentrés et attentifs à ce que leur corps ressent. Donc ça permet aussi de travailler sur les mécanismes dissociatifs qui sont mis à l'œuvre et de pouvoir au fur et à mesure atténuer leurs effets. Une fois le salon de repos construit, on commence l'atelier danse. À chaque fois, on commence par la même musique qui fait partie du cadre de l'atelier. Le temps pour pouvoir juste remettre les corps en mouvement. Une fois ce temps terminé, on se retrouve tout de suite en cercle et on prend le temps de répondre aux trois questions qui sont les mêmes à chaque fois. D'où vient chacune de nous? Comment on se sent dans notre corps aujourd'hui? Absolument pas sans revenir sur l'histoire traumatique qu'on a pu vivre avant. C'est vraiment dans l'ici et maintenant qu'on inscrit l'atelier danse. Et ensuite, la dernière question concerne un peu plus les effets de la mémoire traumatique. Et la dernière question est justement, qu'est-ce qu'on se souvient de l'atelier danse qu'on a fait ensemble? On fait le tour entre nous, assises par terre, en cercle. Une fois qu'on a pu répondre chacune à nos questions, revenir à soi, dire aux autres comment on se sent aujourd'hui dans notre corps, prendre part de nos souvenirs en commun, de dernier atelier danse qu'on a pu partager, on prend un temps pour pouvoir vraiment co-construire l'atelier à venir. Donc l'idée de la co-construction, qui est aussi une idée donc, d'enveloppe de l'extérieur, donc au niveau du cadre institutionnel, comme j'ai repris tout à l'heure, elle continue aussi à se développer à l'intérieur de l'atelier. Cette idée de « on n'est pas dans un rôle de maîtrise ou de pouvoir », je suis juste l'animatrice, je suis là en tant que garante de cadre, mais à la fois, mon rôle, ce sera vraiment d'avoir une position de plus en plus effacée pour que les participantes puissent reprendre l'espace et puissent reprendre la parole. On co-construit chaque atelier, et dans cet atelier, bien sûr, tout est encore en jeu entre un cadre proposé et des choses qu'on peut bouger à l'intérieur du cadre pour pouvoir continuer cette idée de mouvement. On a trois parties. Il y a la partie de danse traditionnelle, la partie qu'on appelle la relaxation et une partie qui est inspirée de la danse contemporaine. À chaque fois, les participantes, par rapport à leur état de corps, par rapport à ce qu'elles souhaitent, choisissent si on peut commencer par la relaxation, par des mouvements un peu plus libre ou bien par des mouvements qui sont plutôt très contrôlés, inspirés des danses traditionnelles, donc des mouvements codifiés. Je vous fais juste une petite brève présentation de ces trois parties et après je passerai la parole à Monique qui pourra vous parler aussi de son témoignage en tant que bénévole à l'atelier danse. Dans la partie de danse traditionnelle, on est en train de construire un socle ensemble. On a des danses codifiées qu'on partage entre nous. Je propose des danses traditionnelles venant de ma culture parce que au niveau contre-transférentiel, c'est là, dans cette danse-là, que je peux au mieux accueillir la personne qui est en face de moi. Et à la fois dans cette partie-là, c'est toujours ouvert et une des participantes, elle peut à chaque fois apporter aussi une danse qui vient de chez elle, de sa culture. Et très souvent, on se retrouve dans un patchwork comme ça de danse traditionnelle qu'on partage entre nous. L'idée des danses traditionnelles, à part de convoquer le corps en mouvement dans des pas codifiés, donc dans quelque chose de plutôt rassurant, à part de nous permettre aussi de travailler sur le contact, être main dans la main et initier des danses plutôt de groupe, c'est aussi comment construire un socle de base sur lequel déjà on peut poser le corps avant d'aller vers la créativité. C'est Claude Pujat de Renaud qui nous dit que c'est bien la répétition des mouvements qui peut nous amener vers la créativité. Et là, j'aimerais bien citer Louise Buet, qui dans son ouvrage « La danse à l'écoute d'une langue naufragée » nous dit qu'en effet, nous devons donner corps aux histoires qu'on entende et qui nous restent encore à inventer. Tout d'abord, il va falloir produire une densité, inventer un sol où on peut prendre pied. Aucun mouvement n'est possible sans appui, aucune parole vivante n'est possible sans un corps sensible où on peut l'ancrer. Donc c'est toujours cette histoire de sensation, de comment on peut, suite au corps, et rester à l'écoute des sensations de corps et à la fois proposer un espace où on peut construire un socle, on peut construire des mouvements qui se répètent, qu'on peut retrouver à chaque fois, qui seront très rassurantes pour les participants de l'atelier. Dans la partie de la relaxation, on va plutôt inviter à être à l'écoute des mouvements de l'air, les mouvements de l'air qui peuvent rentrer dans la maison corps, qui peuvent aller dessiner des trajectoires différentes. Cette partie-là sera aussi inspirée de ce que je vais entendre au niveau des corps douloureux que les participants vont parler en chaque début d'atelier. Par rapport aux endroits où elles sont des blocages, par rapport aux endroits où elles sentent qu'elles ont besoin de prendre de l'ampleur ou qu'elles ont besoin de prendre du volume. Et ensuite, ça sera la partie de la danse contemporaine. Dans cette partie-là, ça sera vraiment une grande partie d'improvisation où, à chaque fois, c'est le mouvement qui sera toujours ainsi suspendu à l'événement. On va être dans des mouvements d'ouverture, de fermeture, dans des jeux de groupe où il y a souvent, c'est le cercle qui va maintenir l'expression subjective d'une des participantes, l'expression subjective, bien sûr, à travers la danse. Et dans ce cas-là, ça sera des mouvements qui vont jouer sur le proche, le lointain, sur des impulsions, la répulsion, l'inhibition, ou bien l'ouverture, la fermeture de l'espace autour de nous. Donc je m'arrête là et je préfère passer la parole à Monique Valentino pour qu'elle puisse vous parler encore plus concrètement de son expérience en tant que bénévole à l'atelier danse depuis un an.
Bon, c'est formidable parce que Zanitza a tout dit, moi. Donc moi, ce que je vais juste apporter, c'est ce que ça m'a fait à moi d'être bénévole dans cet atelier de danse depuis un an maintenant. Et la première fois que je suis allée à l'atelier de danse, j'y suis allée, bon, cool, tranquille, je connais la danse, j'ai l'habitude des groupes, je sais parler, écouter les femmes, ça va quoi. Eh bien, c'était pas ça du tout parce que je me suis retrouvée, en fait, relativement démunie parce que la danse ne me servait à rien. Savoir danser, je veux dire. Avoir appris la danse contemporaine, l'utiliser souvent, ben, ça ne servait pas. C'est pas ça qui est important. De même que c'est pas l'écoute. Moi, j'avais l'écoute médicale en tête. C'était pas ça du tout. Ce qui était important, c'est ce que faisait Zornitza avec ce que disaient les femmes, comment elles pouvaient transformer ça en proposition de mouvement. Et ça, là, vraiment, tout ce que j'avais fait avant ne me servait à rien. Donc ça, c'était vraiment mon expérience. Et d'autre part, Oui, ça ne me servait pas, par exemple, les connaissances en danse, parce qu'il ne s'agit pas de forme, il ne s'agit pas de reproduire une forme, il s'agit de ressentir des choses et de les transformer en mouvement. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai l'habitude, on me dit, tu fais ça, hein? Bon, je le fais, enfin je le fais, j'essaye de le faire. Mais là, c'était, on ne reproduit pas, on essaye justement de produire, d'extraire de soi, à partir de ses sensations, de son ressenti, un mouvement qui va dans le sens de la proposition de Zornitza. Et donc, ça exige de se concentrer sur soi, sur ses sensations, d'être vraiment à l'intérieur de soi et d'accepter ce qu'on fait sans jugement, parce qu'il n'y a pas de mal faire, il n'y a pas de bien faire, il y a faire, tout simplement. Et puis, il s'est passé quelques petites choses. Enfin, quelques petites choses. Ça peut paraître petit, mais pour moi, ça a été très, très important. Des réactions des femmes et de ce qui s'est joué là dans le soutien de Zornitza et les propositions qu'elle faisait. Une fois, il y a eu à cet atelier une femme qui devait se représenter devant la CNDA et qui était absolument terrorisée, apeurée, qui avait perdu totalement confiance en elle, qui n'avait en plus aucune confiance dans les gens qui allaient l'écouter, en disant, de toute façon, ils n'écoutent pas, ce que je peux dire, ça n'a aucune importance, ils me regardent, enfin... Elle avait senti, la première fois qu'elle s'était présentée, un peu de, disons, de mépris, peut-être, hein, quelque chose comme ça, en tout cas, de la part des gens à qui elle s'adressait. Et cette fois-là, elle était vraiment abattue, triste, et son abattement se transmettait aux autres. Et il y avait une espèce de truc comme ça, on se rétrécissait de plus en plus. Et les femmes, les autres femmes présentes lui ont répondu, à mon sens, avec des paroles qui, sans effet, des paroles lénifiantes, mais qui ne soutiennent pas. Et moi, j'ai eu envie, donc à ce moment-là, d'être un peu, comme j'ai pu être dans d'autres, dans des situations médicales, plus soutenante, la laisser d'abord s'exprimer jusqu'au bout. Et Zornitza a interrompu ce processus-là en disant, d'abord elle l'a interrompu verbalement en disant, mais vous avez des ressources, votre histoire c'est votre histoire, votre histoire, si vous êtes convaincu de ce que vous avez pu vivre, vous allez arriver à transmettre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera écoutée, mais vous allez arriver. Elle lui a redonné confiance verbalement. Et ensuite, elle a fait une proposition de mouvement où on a cherché les appuis au sol, les appuis dans l'espace, les appuis sur l'air. On a traversé l'espace, c'est-à-dire, inciser l'espace, se frayer un chemin et y aller, ne pas rester dans la position d'isolement, mais y aller, affronter cet espace-là. Et moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'était une réponse, une vraie réponse soutenante, ça, et qui donnait à cette femme des outils qui restauraient la confiance qu'elle avait perdue. Et bon, on l'a vu dans les gestes qu'elle a fait, dans les appuis qu'elle a pris. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de mal faire, il n'y a pas de... Effectivement, il y a une espèce quand même de contagion, de mouvement. Donc, quand on commence un mouvement, il peut être repris par d'autres, et particulièrement dans les moments d'improvisation, qui sont plus spécifiquement de danse contemporaine, où on s'observe sans c'est pas en voulant s'imiter, mais on a le regard large qui permet de voir ce que font les autres et de soit s'inspirer de ça pour en faire quelque chose de semblable, soit pour faire quelque chose de différent. Mais il y a, c'est-à-dire qu'il y a ce lien qui a été créé déjà par le socle des danses bulgares qu'on fait, ce lien qui a été fait par, parce qu'on se tient les mains souvent, beaucoup, et ce lien de la parole, là, il est prolongé par ce lien de regard large et qui inclut l'autre, et mais qui ne l'enferme pas. Je ne sais pas si vous me comprenez là, ça va ou pas ? Oui ? Bon, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, ce que j'avais vraiment trouvé bien là, et qui m'a ouvert l'esprit, c'est ça, la façon de Zornitza de réanimer. J'ai l'impression qu'elle réanime. Moi qui suis anesthésiste, réanimateur, je peux en parler. Mais elle réanime les ressources des femmes qui sont présentes. Et tout ça passe par le mouvement, par ce qu'elles vont mettre d'elles dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'en allant chercher à l'intérieur d'elles-mêmes, elles objectivent qu'elles ont de l'importance, quoi. Voilà. Une autre fois, bon, un autre exemple. C'est dans une danse bulgare, une femme qui avait un peu de mal à faire le pas proposé et qui ne le posait pas comme c'était montré. Bon, et moi, évidemment, quand même danseuse, j'avais envie de lui montrer comment on pose le pied dans ce cas-là, comment on croise la jambe, on pose le pied et tout. Et bon, je l'ai fait un petit peu, puis j'ai vu que ça ne marchait pas, donc j'ai arrêté. Et après, quand j'en ai parlé avec Zornitza, elle m'a dit « Mais moi, je trouve intéressant qu'elle ne pose pas le pied. » Ben oui, voilà, c'est ça l'atelier de danse. C'est aussi intéressant qu'elle ne pose pas le pied parce qu'elle dit quelque chose d'elle. Et pour moi, ça a été tout à fait formidable. Ce qui a été formidable ensuite, c'est que cette femme est revenue à différents ateliers en insistant sur cette difficulté qu'elle avait repérée. Et au tout dernier atelier, Zornitza a dit « Mais vous faites vraiment autre chose ? Eh bien, on va faire comme vous. » Et donc, elle a inventé une nouvelle danse bulgare, ce qui est quand même pas mal. Bon, voilà, donc ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment, c'est quelque chose de vraiment vivant. Et on est, je dis bien « on » parce que pour moi aussi, ça fonctionne. Je suis vivante dans cet atelier, je ne suis pas en train de reproduire, je suis vivante. Et pour ces femmes-là aussi, j'ai l'impression qu'on sent ça, que c'est vivant et que ça impulse, que ça remet du vivant dans leur vie. Bon, peut-être que c'est un peu exagéré de ma part, mais enfin, quand même, moi, je ressens ça. Et ce que je ressens aussi, c'est la joie. C'est que cet atelier, qui est évidemment variable en fonction des femmes qui sont là, fait toujours apparaître la joie. Et qu'on peut être complètement comme ça en arrivant. Les femmes, elles sont souvent la tête dans les épaules, elles sont... Hein, et eh ben voilà, la joie, on s'amuse et quand on finit l'atelier, c'est toujours dans le rire. Et moi, je trouve ça assez précieux aussi. Et d'ailleurs, je vais vous lire le témoignage d'une de ces femmes à qui on a demandé ce qu'elle aimerait qu'on dise ici de l'atelier. Alors elle dit que cet atelier de danse lui a permis de s'accrocher à quelque chose. Je cite, hein, moi, parce que j'ai pris des notes pendant qu'elle parlait, avec son accord évidemment. Avant, j'étais à la ramasse. Ça m'a sauvé la vie, en fait. Rencontrer des gens, partager ce qu'on y fait, réaliser quelque chose, avoir un objectif, me lever tous les mercredis matins et me dire que j'avais à faire quelque chose d'important. Sinon, je reste chez moi, je me morfonds. Venir à l'atelier, ça me permet de penser que je suis importante, hein, d'extérioriser ce que je ressens. J'étais si déprimée que j'étais prête à faire n'importe quoi. Et ça m'a apaisée, en quelque sorte. Bon, je ne sais pas si... Je n'ajoute rien parce que c'est vraiment parlant. Enfin, surtout que ça s'accompagnait d'une modification totale de son attitude corporelle. Ce ne sont pas que des paroles qui sont très gentilles, évidemment, mais pour faire plaisir, c'est que également, on avait l'impression qu'elle était un peu sortie de, bon, de d'une carapace, de l'enfermement. Elle était, enfin, oui, les épaules dégagées, le cou dégagé, le regard qui nous recherchait davantage, quelque chose de comme si elle s'était un peu construite. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement avec l'atelier de danse, bien évidemment, mais il n'empêche qu'il y a cette modification corporelle qui était extrêmement visible et qui s'accordait parfaitement aux mots qu'elle a utilisés. Voilà, je te repasse la parole, Zornidza. Tu conclus? Si, si, si.
Je prends la parole juste pour deux petites minutes. C'est juste pour vous partager deux phrases d'une écrivaine et d'une chorégraphe qu'on met en juxtaposition à chaque fois dans chaque atelier. La première phrase, c'est celle de Virginia Woolf, de son ouvrage « Une chambre à soi ». Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur qu'un homme, davantage même, de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Trévelyan, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Est vraiment en opposition de cette phrase-là, on met en action, en mouvement, à chaque fois une autre phrase d'une chorégraphe qui nous inspire beaucoup, c'est Pina Bausch, qui nous dit « dansons, dansons, sinon on est perdus ».